BW. Vue d'Allemagne.
Plus de 14 millions de personnes sont considérées comme pauvres en Allemagne. Comment est-ce possible dans un pays aussi riche? On se penche sur cette question cette semaine dans Vue d'Allemagne, après la publication du rapport paritaire 2024 sur la pauvreté. En deuxième partie de ce magazine, le Canada a une tradition d'accueil pour les migrants, mais pour combien de temps encore? Alors que la population vieillit, le pays prend des mesures pour réguler les arrivées sur le territoire. On vous emmène dans un centre d'accueil de migrants francophones à Calgary, dans l'ouest du pays. Ce sera le grand reportage de Vue d'Allemagne. C'est Anne Le Touzé au micro, willkommen et bienvenue.
Mango ou avocado?
Mangue, avocat, tomates, les fruits et légumes frais sont très demandés dans cette banque alimentaire organisée comme un marché dans un quartier de Berlin. Chaque lundi, contre un euro symbolique, des personnes dans le besoin viennent faire leur choix parmi les denrées proches de la date limite de consommation, des dons fournis par des supermarchés ou des commerces alimentaires. La distribution est organisée principalement par des bénévoles. Les Tafel fournissent à plus de 2 millions de personnes un complément nécessaire pour manger à leur faim.
Ce qui m'a demandé le plus d'efforts, c'est d'aller à la banque alimentaire. Là, j'ai eu honte.
Mathias Hernandez-Lopez a 57 ans, c'est un pré-retraité forcé. Ancien détective de supermarché, il surprenait souvent des personnes âgées en train de voler de la nourriture par nécessité. Après une crise cardiaque, il s'est retrouvé au chômage, puis mis en pré-retraite. Aujourd'hui, il est lui-même touché par la pauvreté.
On a parfois l'impression d'être exclu, d'être comme je dirais des personnes de troisième classe, dont on dit « oui, il est pauvre, il n'a rien ». Mais ce n'est pas cela qui fait un homme, qu'on ait de l'argent ou non.
Mathias Hernandez-Lopez fait partie des 14,2 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en Allemagne. D'après le dernier rapport sur la pauvreté du Paritätischer Gesamtverband, la fédération des associations caritatives allemandes, Jonas Pieper est l'un des auteurs de ce rapport.
Dans le rapport sur la pauvreté, nous utilisons le concept de pauvreté relative, c'est-à-dire qu'on la mesure d'après le niveau de prospérité de la société dans laquelle une personne vit. En d'autres termes, il s'agit de la participation à la société dans laquelle une personne vit, et cela nécessite de l'argent. Si l'on regarde maintenant au niveau individuel, le seuil de pauvreté se situe actuellement à 1186 euros par mois pour une personne célibataire. Cela peut paraître beaucoup, et c'est bien sûr beaucoup d'argent, mais il faut le mettre en relation avec le coût de la vie, qui est très élevé en Allemagne.
Les 1186 euros mentionnés correspondent à 60% du revenu médian en Allemagne. Il s'agit du revenu net total d'un ménage, c'est-à-dire comprenant les allocations de logement, les allocations familiales ou autres transferts sociaux. Pour un ménage composé de deux adultes avec deux enfants, il peut aller jusqu'à 2965 euros selon l'âge des enfants.
Si l'on regarde qui fait partie du groupe de 14,2 millions de personnes qu'on doit qualifier de pauvres en Allemagne, alors ce sont principalement des personnes qui ont un emploi, des personnes qui sont à la retraite ou bien des enfants. Si on regarde maintenant quels sont les groupes les plus exposés au risque de pauvreté, on doit dire qu'il s'agit en particulier de familles monoparentales, de familles nombreuses, de personnes ayant un faible niveau de formation ou de personnes qui n'ont pas la nationalité allemande.
Le nombre de personnes pauvres a très légèrement baissé en Allemagne par rapport au précédent rapport, moins 0,1 point. Mais le rapport souligne que la pauvreté des enfants a atteint un niveau record. Plus d'un enfant sur cinq est désormais touché par la pauvreté. À la Banque alimentaire de Berlin, où nous avons rencontré Mathias Hernandez-Lopez, Andreas, 14 ans, est lui aussi venu chercher de quoi manger.
Ça nous aide financièrement pour pouvoir manger, parce que tout est devenu plus cher. C'est pour ça que nous sommes ici, pour se procurer de la nourriture.
Le gouvernement allemand a bien mis en place des mécanismes pour lutter contre la pauvreté, notamment en 2022 avec une allocation exceptionnelle pour répondre à l'inflation record. Mais selon les associations caritatives, les mesures prises n'ont eu qu'un effet temporaire et la légère baisse constatée de la pauvreté risque de ne pas durer. Alors que l'Allemagne élit l'an prochain son nouveau Parlement, les débats politiques se concentrent sur le montant du Bürgergeld, l'allocation citoyenne en vigueur depuis 2023, et sur la nécessité d'inciter les allocataires à travailler. Les partis conservateurs réclament notamment un durcissement des sanctions envers les récalcitrants. Les associations caritatives appellent à ne pas se focaliser sur la question du travail, qui ne concerne qu'un tiers des personnes touchées par la pauvreté. Elles soulignent en revanche le creusement des inégalités en Allemagne. Alors que le taux de chômage est faible, que le nombre de bénéficiaires de l'aide sociale est à son plus bas niveau depuis une vingtaine d'années et que les revenus augmentent constamment, le taux de pauvreté reste élevé. De 14,7% en 2005, il est aujourd'hui à 16,8%. Raison pour laquelle le rapport paritaire appelle à une vraie politique de lutte contre la pauvreté, comme le détaille Jonas Pieper.
Pour nous, les leviers décisifs sont l'augmentation du salaire minimum à 15 €, l'introduction d'une allocation de base pour les enfants qui protègent réellement de la pauvreté, des retraites plus élevées, l'introduction d'une assurance dépendance solidaire et complète qui prenne en charge tous les coûts liés aux soins. Et puis nous voyons ces dernières années, du moins dans les villes, que les loyers deviennent un problème pour de nombreuses personnes, notamment pour les personnes à faible revenu. C'est pourquoi nous demandons une politique très cohérente dans le domaine des loyers qui permette de les réduire.
Des mesures qui risquent de coûter cher à un moment où le gouvernement allemand multiplie les économies. Les associations caritatives plaident pour une participation plus importante des hauts revenus à la cohésion sociale, par exemple en réintroduisant l'impôt sur la fortune. Vue d'Allemagne, deuxième partie, et comme promis, on prend la direction du Canada. Le pays d'Amérique du Nord est considéré comme un modèle en matière d'immigration. L'année dernière, le gouvernement de Justin Trudeau s'est fixé un objectif, recevoir 500 000 personnes par an à partir de 2025, afin de tripler la population canadienne d'ici à 2100. Sauf qu'avec l'inflation qui grimpe, la crise du logement, le manque de médecins, la politique migratoire canadienne est de plus en plus critiquée. Et ces derniers mois, le gouvernement prend de plus en plus de mesures pour limiter les visas temporaires pour réguler les arrivées sur le territoire. Reportage à Calgary, dans l'Ouest canadien, de notre correspondante Justine Leblon.
Rose Moussa est arrivée en septembre du Tchad. Lui a 22 ans, son petit frère 20. Ils se sont tous les deux installés à Calgary dans une colocation avec des Tchadiens.
J'ai quitté mon pays, c'est juste pour les problèmes politiques. Mon père, il est de l'armée. Et après, il a intégré la rébellion. Et à cause de ça, nous ne se sentons pas en sécurité. C'est pour cela qu'on a choisi de venir au Canada. Puisqu'il y a un de notre oncle, il est ici.
Rose Moussa aimerait poursuivre ses études en génie des mines, mais pour le moment, son statut ne lui permet pas d'étudier.
Parce qu'ils nous disent toujours, quand vous êtes un réfugié, tu n'as pas droit aux études, il faut avoir le résident permanent. Donc, pour nous, c'est très difficile. Tout le monde parle l'anglais. Quand tu pars dans une entreprise pour chercher du travail, l'interview, c'est en anglais. Quand on ne connaît pas l'anglais, ne sont pas la bienvenue, donc c'est pas facile Calgary.
6 mois après son arrivée sur le sol canadien, c'est la désillusion.
Parfois, je me sens tellement stressé ici. Tellement stressé. Puisque ici au Canada, c'est pas comme l'Afrique. Toujours tu es à la maison, tu sais pas où aller, et encore avec les problèmes de langue, tout ça, c'est tellement stressé. Non, on imaginait quelque chose de très différent. On pensait même que c'est le paradis sur terre, quelque chose de ça. Mais on est venu... Tout est différent.
S'établir au Canada est un vrai parcours du combattant et Justine en sait quelque chose. Arrivée du Congo-Brazzaville il y a 20 ans au Québec et quelques années plus tard en Alberta, elle n'a pas réussi à faire reconnaître ses diplômes dans le social et a dû refaire ses études.
Venir au Canada, c'est beaucoup de défis. Ce n'est pas quelque chose qu'on a préparé, mais les circonstances de la vie ont permis que bon, on avait une autre chance de refaire notre vie professionnelle ou la vie de famille. Donc, les premiers défis, c'est d'abord s'acclimater au froid, à l'hiver. L'autre défi, c'est aller vers l'emploi parce que On avait des emplois dans les pays, on avait des formations et là, il fallait tout recommencer sur le plan professionnel, sur les plans des études. Donc souvent, on peut travailler, mais pas dans son domaine. Souvent, c'est des emplois de survie. Bon, on peut travailler dans McDonald's, à Walmart, pour essayer de se faire une expérience et puis progressivement atteindre l'emploi de tes rêves, là où tu as voulu. Toujours. Mais ça prend du temps.
Aujourd'hui, elle travaille au CANAF, le Centre d'accueil pour nouveaux arrivants francophones, un organisme dont Esdras Nguenzi est le directeur à Calgary.
La mission du CANAF, principalement, c'est l'accueil, l'établissement, l'intégration de nouveaux arrivants parlant français, accompagner toutes ces nouvelles personnes dès le départ, dès le premier jour.
Et en ce qui concerne donc l'immigration extérieure, les personnes que vous aidez viennent généralement de quel pays ou de quelle région?
Si je globalise de 5 grandes régions, c'est les pays francophones. Mais on peut parler de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest, francophone aussi, de l'Afrique centrale, francophone, et des Caraïbes, c'est-à-dire Haïti, en plus de l'Europe.
Plus de 370 000 personnes sont arrivées au Canada l'année dernière, des migrants économiques pour la plupart. L'une des étapes compliquées à l'arrivée, prouver que l'on a assez d'argent pour s'installer et vivre. Boban Stojanovic travaille dans un centre d'accueil.
Si vous voulez louer un appartement, vous devez fournir votre historique bancaire. Et si vous venez d'arriver et que vous n'en avez pas, vous n'avez pas forcément d'amis pour vous recommander ou d'employer pour justifier d'une rentrée d'argent. Si vous êtes une personne de couleur, vous pouvez être confronté à de la discrimination. Mais en comparaison à d'autres pays, même s'il y a beaucoup de choses à améliorer, je pense que ce n'est pas si difficile d'être immigrant au Canada.
L'immigration fait partie de la culture canadienne, mais les objectifs du gouvernement, 500 000 nouvelles personnes par an à partir de 2025, font beaucoup réagir les Canadiens. Environ la moitié d'entre eux estiment qu'il y a aujourd'hui trop de nouveaux arrivants. Et pour la première fois, le pays vient de décider de réduire le nombre de travailleurs étrangers temporaires afin de s'adapter à l'évolution des demandes du marché du travail, un marché de plus en plus tendu. Arvin Magazan est professeur d'économie à l'Université de Calgary.
Vous savez, nous avons des problèmes de logement, d'infrastructures, de soins, de santé dans le pays en ce moment et beaucoup d'individus et certains partis politiques en font une raison pour réduire l'immigration. Mais je pense au contraire que l'immigration peut être une solution à ces problèmes, à l'inflation, car le coût de la production des biens et donc leurs prix diminueront si nous parvenons à pourvoir ces emplois.
L'enjeu est de taille, la population canadienne vieillit, près d'un citoyen sur cinq a plus de 65 ans et de moins en moins de bébés naissent au Canada avec un taux de fécondité de 1,4 enfants par femme.
Un reportage ciné, Justine Leblon à Calgary dans l'ouest du Canada, merci à elle. Et merci aussi à Tina Gerhäuser pour le reportage et les témoignages recueillis dans une banque alimentaire de Berlin. Vue d'Allemagne, c'est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner au podcast si ce n'est déjà fait. La semaine prochaine, c'est Hugo Flotatalon que vous retrouverez à ce micro. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !